Que retenir du premier tour des élections législatives? Analyse et enseignement dans la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Et maintenant, le deuxième tour. Dans certaines communes, des tractations sont en cours avant le dépôt des listes. Ce soir, 18h, dernier délai. Tractation également en métropole. À Paris, Rachida Dati, LR et Pierre-Yves Bournazel, Horizon, fusionnent leurs listes pour tenter de battre le candidat socialiste. Opération de sécurité routière et de contrôle de camions à Ducos ce matin. 24 poids lourds contrôlés et 26 amendes rédigées. 17e jour de guerre au Moyen-Orient. Donald Trump a dressé un bilan des opérations militaires. Il souhaite que les pays alliés comme la France s'engagent militairement pour débloquer le détroit d'Ormuz. Et puis le sport avec du football. Le PSG tentera demain de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Attention toutefois au match piège contre Chelsea malgré la victoire parisienne 5-2 au match aller. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est un exercice incontournable. Les Calédoniens sont appelés comme chaque année à remplir leur déclaration de revenus. Et comme chaque année, Radio Rythme Bleu se met à votre service. À midi, après ce journal, dans le magazine Citoyen, vous pourrez poser toutes les questions que vous vous posez à Éric Ferré, chef du service de la fiscalité des particuliers, et à son adjoint Thierry Weiss, qui sont avec nous dans le studio. Vous avez des hésitations, des doutes, vous souhaitez des précisions. Posez donc toutes vos questions ce midi en direct à nos invités dans le magazine Citoyen. Vous pourrez le faire par téléphone pendant la durée de l'émission au 25 46 46. 25 46 46. Vous pouvez aussi envoyer vos questions par mail dès maintenant à rrb@lagoun.nc, rrb@lagoun.nc. Les élections municipales à la une, c'est donc ce soir à 18h, dernier délai, que les candidats qualifiés pour le second tour des municipales doivent déposer leur liste. Dans certaines communes, des discussions et tractations sont encore en cours, nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, revenons sur les résultats du premier tour et leurs enseignements. C'est la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Pourquoi et pour qui les Calédoniens ont-ils voté dimanche lors du premier tour des élections municipales? Quelles étaient leurs motivations et qu'avaient-ils en tête en mettant leur bulletin dans l'urne? Ce sont des questions que l'on est en droit de se poser au vu des résultats et du contexte particulier dans lequel s'est déroulé ce scrutin. D'abord, ils ne se sont pas bousculés dans les bureaux de vote et cela interpelle pour une élection qui concerne la liste électorale générale, c'est-à-dire l'ensemble des électeurs, quelle que soit leur origine ou leur durée de résidence. Le taux de participation atteint 56,08%, c'est 3 points de plus qu'il y a 6 ans, mais c'est 10 points de moins qu'en 2014. Et pourtant, au vu du nombre de listes et donc de candidats en présence, on pouvait penser que ce scrutin motivait en Nouvelle-Calédonie. Mais n'oublions pas que c'est une élection à deux tours et que ceux qui ont raté le coche pourront se rattraper dimanche prochain, d'autant plus que l'offre est encore très copieuse, avec de nombreuses triangulaires, quadrangulaires et même quinquangulaires. Mais sans attendre ce second tour, on tire déjà quelques enseignements du vote de dimanche. Il faut dire que les Calédoniens attendent de participer à des élections provinciales qui sont sans cesse repoussées, et on peut penser qu'au-delà de la désignation d'un conseil municipal et d'un maire, les électeurs ont voulu exprimer un choix sur leur avenir et sur la manière dont ils voulaient qu'ils soient pris en compte. De toute façon, sur le territoire, quelle que soit l'élection, c'est toujours un choix existentiel. On vote pour la France ou pour l'indépendance, et c'est encore ce qui s'est passé ce dimanche, avec des nuances supplémentaires. Chez les partisans de la France, faute de provinciales, le scrutin municipal servait d'exutoire après les violences insurrectionnelles de mai 2024. Il a permis aussi de mesurer l'impact des stratégies et force est de constater que la troisième voie ou la voie médiane n'ont pas été plébiscitées. Elles semblent même avoir été désavouées quand on voit que Calédonie Ensemble n'est plus que l'ombre d'elle-même, que l'éveil océanien ne sauve la face qu'à Païta et qu'à Bouraille, les électeurs ne semblent pas adhérer à l'alliance du maire sortant avec les indépendantistes. À l'inverse, les listes qui assument sans ambiguïté leur attachement à la France devancent largement leurs adversaires de la voie du milieu, même si ceux qui se qualifient de modérés continuent à les caricaturer en dénonçant leur radicalité. Et il y avait en plus dimanche une prime à l'union qui n'a pas toujours été au rendez-vous. Chez les indépendantistes aussi, ces municipales servaient de clarification. L'UCFLNKS a fait de ce scrutin un référendum pour ou contre Bougival. Mais à l'issue de ce premier tour, la réponse n'est pas évidente. Et c'est allé un peu vite en besogne de dire que l'UC s'en renforçait. D'abord parce qu'historiquement, elle est très bien implantée au niveau municipal et qu'elle part donc avec une longueur d'avance sur l'UNI. Ensuite parce que ces victoires du premier tour ont lieu dans des fiefs imprenables comme Niaghen ou Lifou, ou dans de toutes petites communes. et ce serait oublier les revers qu'elle subit à Koné ou à Marée, sans oublier les conséquences des divisions du camp indépendantiste. Il faudra donc attendre l'issue du second tour pour savoir si la ligne dure du nouveau FLNKS a progressé ou non au niveau communal, mais on peut déjà saluer le bon déroulement du scrutin. C'est tout de même mieux quand les indépendantistes s'expriment dans les urnes plutôt que sur le terrain.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que vous retrouverez aujourd'hui à 16h. Vous pouvez la réentendre juste après le flash cet après-midi. Elle est aussi disponible sur notre site internet rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la réponse à la question d'hier. 50% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent surpris par le résultat du premier tour des élections municipales. Ils sont donc autant à dire ne pas être surpris. Et puis voici notre question du jour. Faut-il que les listes qui ont franchi de justesse le premier tour des municipales se désistent pour faciliter l'union au second tour? Si vous pensez qu'elles doivent se désister, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Justement, maintenant, le deuxième tour. Il faudra attendre pour connaître la donne exacte dans certaines communes où des tractations sont en cours. Toutes les listes qui ont franchi la barre des 10% au premier tour peuvent se maintenir au second. Mais entre les deux tours, les listes à partir de 5% peuvent aussi fusionner ou faire des alliances. Et certains candidats peuvent aussi choisir de se retirer, Nicolas Legrand.
Oui, côté indépendantiste, tout d'abord, le bureau politique du FLNKS est réuni ce matin à Saint-Louis pour déterminer la stratégie dans chaque commune. Je rappelle que le FLNKS peut se maintenir dans 3 communes de l'agglo, sauf Nouméa. D'après nos informations au Mont d'Or, la liste de Tonia Waka se maintient seule au deuxième tour. On se dirige donc vers une triangulaire avec Nina Julier et le maire sortant Elisabeth Rivière. Toutes les options seraient étudiées à Dimbéa, d'après nos informations, où certaines listes souhaitent l'union pour faire barrage à la liste loyaliste de Cynthia Jean. Je rappelle qu'elle est arrivée largement en tête dimanche soir avec 39,62% des suffrages. Pour le moment, rien ne filtre des discussions. Muriel Malfar-Paouga, de son côté, a annoncé qu'elle se maintenait seule au deuxième tour après avoir fait 13,52% dans la commune dimanche. Elle est donc de retour sur le terrain pour défendre son programme et fustige les alliances.
Je fais le deuxième tour et toujours sans étiquette et sans alliance parce que mon seul engagement est envers les Dindéens. Je ne change pas ma ligne de conduite, je ne change pas mes discours, je ne suis pas une girouette. Donc pourquoi au deuxième tour? Parce que tout simplement, on a fait 13,5% et qu'on est au deuxième tour. Avec notre équipe, on va chercher sur les abstentionnistes. Donc moi, je vais voir ces gens-là, je vais leur expliquer pourquoi il faut voter la liste passionnée mon ABA. Je ne veux en aucun cas manipuler la population sur des alliances. Moi, je trouve que si on n'a pas été capable de s'allier au premier tour, je ne vois pas pourquoi on va faire une alliance au deuxième tour, sous prétexte de dire qu'on va faire barrage. Je veux dire, si une personne elle a eu des votes importants, c'est que les gens de Dindéa avaient décidé que cette personne-là, ils la souhaitent maire. Donc moi, au deuxième tour, je vais expliquer pourquoi il faut voter Muriel Malfar-Paouga, pourquoi il faut voter passionnément Dindéa, parce que nous, on a un programme sur le vivre ensemble, sur le destin commun, sur la sécurité, sur la relance économique de la commune et sur la jeunesse.
Et enfin, à Païta, 4 listes peuvent se maintenir. Antoine Romain, je le rappelle, est arrivé en tête devant Mila Koulotoukoumouli et Nikita Alosio du FLNKS. Sur les 4 listes qui peuvent se maintenir, on sait que Patrick Grépeau a d'ores et déjà décidé de se présenter avec la même liste dimanche prochain pour le deuxième tour. Pour le reste, il y aurait donc des discussions en cours. On va savoir la donne d'ici 18h, bien entendu. On sait également que les listes de Sylvia Abel et Christopher Bourgine ont dépassé les 5% et peuvent donc fusionner avec une liste à avoir dépassé les 10%. C'est un réservoir de voix qui représente tout de même 15% des électeurs du premier tour à Païta.
Des discussions et des tractations entre les deux tours également en métropole. On va en parler juste après la première pause de ce journal. À tout de suite.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052. ORIAS 13 103.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
En métropole aussi donc, la préparation du second tour des élections municipales donne lieu à de nombreuses tractations et les choses se décantent à Paris. Pour battre le candidat socialiste Emmanuel Grégoire, arrivé assez largement en tête, Rachida Dati, LR et Pierre-Yves Bournazel, Horizon, ont finalement décidé de fusionner leurs listes. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Les discussions ont débuté dimanche soir après l'annonce des résultats et se sont donc achevées ce soir. Discussion loin d'être évidente, Pierre-Yves Bournazel avait ainsi posé plusieurs conditions à son retrait, parmi lesquelles le refus de toute alliance entre Rachida Dati et Sarah Knafo.
Et Rachida Dati s'est engagée sur les valeurs et sur la lutte contre l'extrémisme politique. Elle s'est engagée sur le projet, notamment sur le périscolaire qui me tient à cœur quand je vois les violences contre les enfants. Et donc, nous avons décidé de fusionner nos listes. Pourquoi ? Parce qu'une majorité de Parisiens attend le changement et l'alternance.
Une fusion rendue possible, entre autres, par Édouard Philippe, le patron d'Horizon, qui a encouragé cette union. Entre Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo, Rachida Dati a donc choisi le premier. La seconde se réfugie pour l'instant dans le silence, alors que plusieurs voix à droite l'encouragent à se désister au nom du combat commun contre la gauche. Rappelons que seul un retrait de Pierre-Yves Bournazel et de Sarah Knafo, combiné à un maintien de Sofia Chikirou au second tour, pourrait offrir une chance à Rachida Dati de l'emporter dimanche prochain.
Les discussions vont bon train aussi à gauche, où le PS cherche à sauver ce qui peut l'être. Pas d'accord national entre les socialistes et la France insoumise, mais des ententes locales, par exemple à Nantes, Grenoble, Toulouse, Avignon, Brest ou encore Clermont-Ferrand. Des positions que le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, dit comprendre. En revanche, à Marseille, le maire socialiste sortant, Benoît Payan, a décidé de faire cavalier seul. Il a refusé l'offre de service du candidat LFI, Sébastien Delogu.
Moi, je ne parle pas aux appareils politiques. Face au Rassemblement National, il n'y a ni compromission, ni tambouille, ni arrangement. Il n'y a qu'une seule ligne, celle de la clarté, ça a toujours été la nôtre.
Le maire socialiste sortant de Marseille, Benoît Payan. Dans certains cas, ce sont les écologistes qui font alliance avec LFI pour sauver leur siège. C'est le cas cette fois-ci à Besançon, à Strasbourg, à Tours, mais aussi à Lyon. Le maire écologiste sortant, Grégory Doucet, compte bien sur la France insoumise pour battre Jean-Michel Aulas. Jean-Luc Bougeon pour Europe 1.
Oui, l'annoncé vient communiquer tout à l'heure. Il y aura donc fusion entre sa liste et celle de la France insoumise. La candidate LFI Anaïs Belloua-Sacherifi était pourtant en position de se maintenir au second tour avec ses 10,4%, mais les deux parties ont trouvé un accord. Ce sera une fusion technique, c'est-à-dire qu'il y aura un mélange au niveau des listes, mais les insoumis n'auront pas de place dans le nouvel exécutif si la gauche l'emporte. Ils se rangent donc derrière le programme de Grégory Doucet. Écoutez la candidate LFI.
Il n'y a ni adjoint, ni fusion, ce qu'on appelle programmatique. Chacun est un groupe politique, avec intelligence bien sûr. Nous nous entendrons sur les grands moments du temps politique lyonnais, mais bien évidemment que nous avons notre voix.
Indignation de Jean-Michel Aulas, qui parle de nouveau aujourd'hui d'un accord de la honte.
J'ai dit que c'était l'accord de la honte, mais c'est pire que ça, quoi, parce que tout ce que prône LFI a été dénoncé par Doucet pendant tout son programme dernier. Et je pense aux Lyonnaises et aux Lyonnais, moi qui aime Lyon, qui ai toujours vécu à Lyon, je suis désappointé pour eux.
Jean-Michel Aulas, qui avait prévenu qu'en cas d'accord de ce type, il ne participerait pas au débat prévu mercredi soir contre Grégory Doucet. Il n'ira donc pas. On peut tout de même se demander si c'est une bonne idée, étant donné que c'est lui qui doit maintenant inverser la dynamique et que son adversaire pourra continuer de dire qu'il fuit le débat.
La préparation du second tour des élections municipales occupe donc l'actualité en métropole. À l'étranger, la guerre continue en Iran. 17e jour de frappe de la coalition américano-israélienne sur l'Iran, qui poursuit ses ripostes mais avec un arsenal de moins en moins fourni. Au 17e jour de guerre, Donald Trump a dressé un nouveau bilan de l'opération devant la presse. Caroline Baudry.
Donald Trump fait état de pertes colossales de l'armée nationale d'Iran. L'armée de l'air n'existe plus, ce sont ses mots. La marine non plus. 90% des missiles balistiques sont détruits, détaille le président. Une centaine de navires coulés, mais le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, trop risqué pour les navires commerciaux de l'emprunter. Le président américain blâme sévèrement les pays, le Royaume-Uni notamment, qui manque d'enthousiasme, je cite, pour aider à sa sécurisation. Mais il se dit confiant sur une aide de la France après avoir échangé avec Emmanuel Macron.
Sur une échelle de 0 à 10, je dirais qu'il a été à 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. Je pense qu'il va aider. Je vous tiendrai informé. Je lui ai parlé hier.
L'Iran souhaiterait un deal, avance Donald Trump dans ce discours décousu. Mais qui dirige l'Iran ? Difficile de le savoir, selon le président qui a déjà éliminé un grand nombre de dignitaires du pays.
Nous ne savons pas qui est leur chef. Nous avons des personnes qui souhaitent négocier. Nous n'avons aucune idée de qui ils sont. Ils disent que le guide suprême d'Iran a perdu une jambe et qu'il a été très gravement blessé. D'autres personnes disent qu'il est mort. Personne n'affirme qu'il est en parfaite santé. Nous ne savons pas s'il est mort ou non.
Interrogé sur l'avenir de l'Iran, le président reste évasif. Il concède que manifester reste extrêmement dangereux puisque les gardiens de la révolution répètent que les opposants seraient durement réprimés par le régime.
Et pendant ce temps, Israël poursuit ses combats contre le Hezbollah dans le sud Liban après d'intenses bombardements sur les positions de la milice chiite soutenue par l'Iran. Tzahal envisagerait des incursions terrestres ciblées, mais à l'heure actuelle, pas d'intervention massive sur le sol libanais. Il est 11h46, une nouvelle pause. Et dans un instant, on revient à l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal d'actualité en Nouvelle-Calédonie avec Jean-François Baudin.
Un homme de 53 ans condamné pour des menaces de mort sur les réseaux sociaux à l'encontre de Sonia Lagarde, cet habitant de Nouméa sans antécédent judiciaire, avait publié un commentaire en lien avec la campagne de prélèvement de requins après l'attaque mortelle. Selon le procureur de la République, durant sa garde à vue, l'auteur a reconnu les faits en précisant que son acte n'avait aucune dimension politique mais plutôt symbolique par rapport à la représentation des requins dans sa culture. L'auteur présumé a accepté la proposition de peine du parquet, à savoir une peine de 70 jours amende à 800 francs. En cas de non-paiement de l'amende, la peine sera transformée en 70 jours d'emprisonnement. Les forces de l'ordre en opération sécurité routière ce matin, un dispositif de contrôle de poids lourds était en effet mené par la gendarmerie à Païta, près de la Reine du Sud, mais aussi à Nouméa par la police nationale, Léana Colombo.
Oui, c'est en plein secteur de Ducos que la police nationale, appuyée des contrôleurs de la DI3T, ont mené cette opération durant près de 2 heures. Des contrôles sont effectués régulièrement, que cela soit pour l'alcool, les stupéfiants ou le respect du port de la ceinture. Et ce matin, ce sont donc les poids lourds qui ont été contrôlés. Anaïs Aitmans, directrice de cabinet du haut-commissaire.
On est vraiment là pour assurer la sécurité et du conducteur et de l'ensemble des usagers de la route quand on est poids lourd. On se souvient, il y a quelques semaines, il y a eu un accident tragique avec un poids lourd à Rivière-Salée. Donc, quand on est chauffeur de poids lourd ou quand on a une entreprise qui fait rouler, on a des obligations. Et l'une des obligations, c'est le poids, c'est la qualité des pneus, c'est le contrôle technique et c'est s'assurer que la structure permet de sécuriser le conducteur.
L'opération est coordonnée entre la province sud, les équipes des forces de sécurité présentes dans la concession et avec les motards de la police nationale qui quadrillent le secteur de Ducos jusqu'à la Save Express pour contrôler les poids lourds et les emmener au site de pesée. Emmanuelle est agent de bascule et c'est elle qui a mesuré le poids des véhicules ce matin.
Qu'est-ce que vous amenez ?
On regarde le poids, déjà qui ne dépasse pas le poids total à charge autorisé.
On compte par rapport au nombre d'essieux qu'ils ont. Et selon le nombre d'essieux, ils ont le droit à un certain poids. Et après, s'ils sont en surcharge, style à 10 roues ou à 3 essieux qui doit être à 26 tonnes, s'il est au-dessus, c'est qu'il est en surcharge. S'il dépasse, là, nous, on fait un travail de prévention, c'est qu'on leur dit qu'il faut réduire les poids. Maintenant, la police est là pour verbaliser. C'est pas de notre sort. C'est bon pour moi, vous pouvez y aller.
Sur le secteur de Ducos ce matin, 24 camions ont été contrôlés, 26 amendes ont été rédigées et un défaut de visite technique a été signalé. Et si certains étaient en règle, ce n'était pas le cas de tout le monde.
Bonjour, c'est la police. Est-ce que je pourrais avoir votre permis de conduire, l'attestation d'assurance et la carte grise du véhicule ?
Apparemment, je suis en dépassement, parce que normalement j'ai un PTAC de 3500 et là je suis à 4100. J'ai un petit dépassement et là j'ai une amende, ils font leur travail.
Normalement, il a un poids total en charge qui est prévu de 3,5 tonnes. Il a été pesé à 6,240 tonnes. Donc c'est des verbalisations en fait par tranche de 500 kg au-delà du PTAC. Donc le monsieur, il a 5 amendes forfaitaires. En plus de ça, on vient de constater qu'il n'a pas les feux de stop obligatoires. Donc monsieur, il doit se conformer au code de la route de la Nouvelle-Calédonie.
Hein. Je suis au nord.
C'est tout bon. Impeccable. Je vous rends la carte grise, les deux assurances et votre permis de conduire. Bonne fin de journée.
Depuis le début de l'année, 4 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes de Nouvelle-Calédonie.
C'est aujourd'hui la Saint-Patrick, le saint patron de l'Irlande. Saint-Patrick a évangélisé l'Irlande et aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux Irlandais lors d'un sermon au Rock de Cashel, grâce à un trèfle, en en faisant ainsi le symbole de l'Irlande, raison pour laquelle la Saint-Patrick est traditionnellement associée à la couleur verte. En Nouvelle-Calédonie, les premiers Irlandais sont arrivés en 1862 et leurs descendants sont aujourd'hui nombreux parmi les grandes familles qui ne sont pas toujours celles que l'on croit, explique Catherine Régent, la présidente du collectif des descendants des Irlandais en Nouvelle-Calédonie.
Les grandes familles irlandaises, c'est une question formidable parce que c'est pas forcément celle qu'on croit. Hein. Justement, à travers ce qu'on a écrit dans la revue de la SEH, on fait de belles découvertes avec les Irlandais de la tribu de Saint-Louis, par exemple, qui sont fort nombreux. Il y a également les familles Nestin aux îles. Il n'y a pas que les Burke ou les Délés, ou les Soulards. Également, il y en a beaucoup. J'ai peur d'en citer, d'en oublier beaucoup trop. Les ethnies sont très mélangées et les gens découvrent leur ascendance finalement à travers nos écrits et nos recherches. Les premières familles irlandaises, j'ai envie de vous dire que ce sont d'abord les Santaliers, les Beachcombers qui sont passés aux îles. Et ensuite, ceux qui se sont installés sur la Grande Terre sont arrivés en 1862, le 17 juillet 1862. Ce sont les Molonais, les O'Donoghue, les Délés, les MacMahon. C'est la famille Cheval qui est venue avec ses amis irlandais. Parce que les Cheval étant français avaient le droit à de la terre en Calédonie. Pas les Irlandais puisqu'ils étaient étrangers.
Et les descendants des Irlandais en Nouvelle-Calédonie sont invités à se réunir ce soir au Boops Café où les traditions seront mises à l'honneur au travers de danse et de musique.
Pour la première fois cette année, nous voyons grand, si je peux le dire ainsi. Nous nous réunirons au Boops Café, au quartier latin. La rue sera close, les danseurs et les musiciens seront là, les gens pourront danser, chanter. On élira même le plus beau costume de la soirée. Les Irlandais ont le sens de la fête et je suis sûre que ce sera formidable. Nous aurons un véritable orchestre qui jouera les airs principaux et entraînants et nombreux et divers d'Irlande. Nous avons un groupe de 6 à 7 danseuses, je ne vais pas dire professionnelles, mais qui savent vraiment danser. En plus de ça, nous avons d'autres danseuses qui vont initier ceux qui voudront apprendre à danser la danse irlandaise. Et nous aurons aussi des membres du groupe qui seront là à la guitare pour nous faire participer en chantant Connemara ou Tipperary.
Voilà, donc Catherine Régent, la présidente du collectif des descendants des Irlandais en Nouvelle-Calédonie, qui sont invités à se retrouver à partir de 18h30 ce soir au Boops Café au quartier latin. Il est 11h54, la dernière pause de ce journal. Avant quelques mots de sport, c'est demain le match retour de 8e de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Les bons plans sont dans votre magasin Team Sport. Profitez de 20% de remise sur tous les maillots de clubs de football et de 30% sur la marque Champion. Dépêchez-vous, c'est valable jusqu'au 21 mars seulement. Team Sport, au centre-ville de Nouméa, ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La fin de votre journal avec Jean-François Baudin.
Oui, c'est donc le sport avec du football et on suivra demain matin les premiers 8e de finale retour de Ligue des Champions. Le PSG, Lionel Sabot, va traverser le Channel.
Exactement, déplacement à Stamford Bridge, dans l'antre du FC Chelsea, match que les Parisiens aborderont avec avantage de 3 buts après leur belle victoire, c'était la semaine dernière, 5 buts à 2 au Parc des Princes, avantage confortable, oui, mais attention au match piège et à cette équipe de Chelsea qui est blessée, qui n'aura absolument rien à perdre dans cette rencontre. Il risque d'y avoir de l'ambiance à Stamford Bridge. Les Parisiens, qui n'ont pas joué ce week-end en championnat, ont eu tout le loisir de préparer au mieux cette rencontre. Ce matin, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a été très clair. La rencontre sera compliquée, mais oui, mais ses joueurs sont prêts.
Et les matchs de retour sont différents parce que c'est une équipe qui est dehors de la compétition dans ce moment et qu'il veut préparer les matchs pour changer ça. Et c'est comme ça que ce sont des matchs différents et très compliqués, bien sûr. On est prêt, on est habitué à jouer ce type de match et ce type de rencontre. Et ce qu'on pense, c'est à performer de la meilleure manière.
Chelsea, Paris Saint-Germain, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Match à suivre demain matin, ce sera à partir de 7h hors de Nouméa. Il y aura 3 autres matchs à suivre demain matin. Le Sporting Portugal recevra les étonnants Norvégiens de Bodø Glimt qui s'étaient imposés en Norvège au match aller 3-0. À suivre encore Manchester City, Real Madrid, très belle affiche. Et puis une autre belle affiche entre Arsenal et le Bayer Leverkusen.
Merci Lionel.